Quoi de neuf doc, le quatrième vendredi du mois sur Radio B. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Quoi de neuf doc.
Combien font 312 multiplié par 123?
3, 8, 3, 7, 6.
C'est bien ça?
Quoi?
C'est exact.
Exact?
Ouais. Ré? 4343 multiplié par 1234.
5, 3, 5, 9, 2, 6, 2.
C'est un génie.
Il n'y a pas d'erreur.
C'est un génie.
L'extrait qu'on vient d'entendre, c'est Rain Man, le film avec Tom Cruise et Dustin Hoffman qui incarne une personne autiste. Ça, c'est la représentation qu'on faisait de l'autisme à la fin des années 80, il y a 40 ans, presque, plus même. Qu'est-ce qui a vraiment changé d'ailleurs? Est-ce qu'on est tous bien au clair sur l'autisme? Je vous propose d'en savoir plus aujourd'hui avec le docteur Sandra Louis, qui est médecin référente du centre de diagnostic de l'autisme dans l'Ain. Bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on ne parle plus d'autisme, mais de troubles du spectre autistique ou TSA. Qu'est-ce que ça veut dire?
Donc les troubles du spectre autistique, il faut savoir aujourd'hui qu'effectivement, la définition a évolué. Et on est passé d'une approche catégorielle qui était très restrictive à l'autisme typique ou l'autisme de Kanner, comme il avait été défini par notre collègue il y a plus de 70 ans de cela. Et donc, on est plus sur une approche dimensionnelle avec différentes formes de troubles de l'autisme et qu'on a une espèce de continuum et on peut se balader dans ce spectre. Ce qui explique qu'aujourd'hui, il y a une augmentation, bien sûr, du coup, du nombre de gens qui sont détectés avec porteurs d'un trouble. Sachant qu'aujourd'hui, aussi, dans l'évolution, on reconnaît vraiment que ce trouble du spectre autistique appartient à des troubles neurodéveloppementaux, ce qui est une avancée depuis maintenant, on va dire, une dizaine d'années. Et... voilà, dans le trouble du spectre autistique, on va pouvoir retrouver les anciennes catégories, autisme typique, autisme atypique, Asperger, trouble envahissement du développement.
On voilà. reviendra là-dessus. Voilà. Est-ce qu'on peut parler d'une maladie, d'un handicap? Comment on présente alors, ça?
Maladie, au sens propre du terme, je dirais que non. Pourtant, ça appartient et c'est défini par la classification internationale des maladies, ce qu'on appelle nous la CIM 11 ou 10. La 11 est la dernière qui a été effectuée et qui est une classification mondiale. Somme toute, dans les classifications américaines, nord-américaines et dans les références, on parle plus de troubles qui entraînent un handicap. Et en fonction, justement, parce que peut-être on en reparlera après, mais de chaque personne où les forces et les compétences ne seront pas les mêmes, on n'aura pas forcément le même handicap. Et que justement, dans les troubles du spectre autistique, il y a deux choses qu'on va retrouver et qui seront, je dirais, le socle commun. C'est vraiment le trouble de la communication et non pas un trouble du langage et le trouble des interactions sociales. Ces deux symptômes sont systématiquement présents, qualitativement et quantitativement.
Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ?
Concrètement, justement dans la représentation, justement où parfois ça a été stigmatisé par Redman, une personne qui a un très bon langage, spontané, est peut-être autiste. Ce qui peut entraîner parfois une forme de leurre en disant bah, « il n'est pas autiste, il parle ». Mais non, parler, c'est utiliser le langage, communiquer, c'est s'adresser à l'autre, c'est la réciprocité. Et c'est adresser au-delà des mots une information par la gestuelle, par le visuel, par le mimique qui va faire passer un message. Et c'est comme ça que vous allez vous ajuster et vous allez communiquer et pouvoir converser.
On a l'impression que c'est très subtil à détecter. Justement, comment on détecte tous ces signaux?
Alors justement, donc, aujourd'hui, on a énormément évolué depuis maintenant. Je dirais quand même, les plans autistes nous ont vraiment été favorables avec quand même tous les moyens mis en œuvre et puis aussi les soutiens des familles qui ont énormément fait bouger les associations. Dans notre justement repérage et perception, pour accompagner ces personnes. Donc, vous allez avoir des enfants. Donc, très rapidement, il y a des enfants qui vont développer un retard de langage qui va alerter Et là, on va aller justement rechercher s'il y a aussi un trouble de la communication. Parfois, c'est simple trouble du langage. Mais l'enfant, il va compenser par les gestes, par le visuel. Et il communiquera avec un enfant. Comme deux enfants étrangers, ils jouent ensemble. Ce n'est pas un problème de langage, vous voyez ? C'est ça la différence entre le langage et la communication. Et d'autres, qui vont avoir un langage qui va se mettre manifestement bien en place, souvent d'ailleurs un langage très précieux, plutôt assez littéraire, mais pas forcément pragmatique. Et ça ne sera pas forcément un langage qui sera adressé. C'est-à-dire qu'il jette les mots, il jette les phrases, sans forcément associer et se représenter ce que ça fait vivre à l'autre et ce qu'on attend de l'autre. Ça, on retrouve très sévèrement ça chez les gens qui sont porteurs du trouble du spectre autistique.
Aujourd'hui, on parle beaucoup, et vous l'avez cité, des autistes Asperger. C'est un peu ceux qu'on a mis en avant dans les médias.
Bien sûr.
Qu'est-ce qu'on peut dire d'eux ? Est-ce qu'ils sont vraiment hyper représentés ?
Alors oui, parce qu'il y a une détection bien meilleure, bien plus fine, de toute une partie de la population qui était porteur de ce trouble du spectre, de bon niveau intellectuel, et qui n'était pas repérée par les outils qu'on avait avant, ou par la clinique en tout cas, qu'on se représentait de l'autisme. Après, il faut savoir aussi que, en fait, dans les définitions, on va dire, plus exhaustives, aujourd'hui, dans les troubles du spectre autistique, seulement 20% auront une déficience intellectuelle associée. Alors qu'il y a des années, on pensait, on estimait plutôt entre 60 et 70%. Donc aujourd'hui, parce qu'on a augmenté nos moyens de détection, on s'aperçoit que ce sont des enfants et des gens très intelligents, mais pas par le verbal forcément. Alors les Asperger, eux, ce sont des gens, dans la définition on va dire exacte, qui n'ont pas de déficience intellectuelle, qui ont un très bon niveau, et qui même parfois surinvestissent le langage, mais ça ne va pas être un langage pragmatique. Par exemple, ça serait, un langage un peu châtié pour dire « ma mère », ça pourrait être mon instance matriarcale. C'est vrai, certes, une instance matriarcale définit une mère, mais vous voyez, dans la pragmatique et dans l'usage quotidien et adolescent, ça ne communiquerait pas avec l'autre en face. Mais les Asperger, voilà, dans la définition propre, aujourd'hui, on parle beaucoup d'Asperger d'une façon un peu plus vulgaire. Quand on a une personne avec trouble du spectre autistique sans retard de langage, sans retard intellectuel et avec souvent aussi des très bonnes compétences de raisonnement et visuel. Et là, c'est ce qu'on retrouve dans Rainman.
Moi, j'ai eu l'impression aussi en préparant cette émission que aujourd'hui, on faisait aussi plus attention à toutes ces formes de détection et assez tôt. Est-ce que vous me confirmez comment ça fonctionne ?
Et ça, c'est vraiment chouette et bien. Alors, à la fois, ça fait peur parce que du coup, je vous explique, il y a 20 ans, on disait que c'était un enfant sur 1000. Aujourd'hui, et encore, on sous-estime parce qu'aujourd'hui, on sait réellement qu'on sous-estime les femmes, les Asperger femmes. Parce que les femmes qui sont porteuses d'un trouble du spectre autistique, de par aussi leur nature, leur façon d'être, ont plus de systèmes de compensation pour venir masquer. Et elles sont détectées très tardivement. Donc aujourd'hui, en tout cas, on estime aux États-Unis et en France, on estimerait à 2 personnes pour 100 personnes, 2%.
Et j'ai lu aussi et compris que la France était quand même en retard. Et vous citez beaucoup les États-Unis sur les diagnostics.
Alors, oui, on a été en retard.
Je pose la question de la formation des médecins. Alors, parce que pour préparer l'émission, j'ai aussi contacté des parents de jeunes autistes. J'ai eu la sensation que les médecins n'étaient pas forcément tous très bien formés détection.
C'est vrai que... Alors déjà, pour reprendre un peu l'histoire... On avait énormément de retard. Seulement quand même, les différents plans autistes, ces 10 dernières années, ont permis à la France de faire une avancée énorme. Certes, insuffisant au vu du nombre de personnes et de familles touchées. Mais aujourd'hui, quand même, il y a eu un effort fait par justement l'État et par chaque acteur et les associations de former au maximum. ça ne sera jamais suffisant. Mais quand même, dans l'éducation nationale, au niveau du système de santé, on essaye. Alors, au système de santé, je pense qu'il y a une partie qui est liée au fait aussi de la pénurie médicale. Et donc, tout le monde n'a pas forcément été spécialisé, en tout cas... peut-être aujourd'hui, les formations, elles sont beaucoup plus actualisées sur les troubles du spectre et non pas sur l'autisme qui était plus catégoriel à l'époque. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une partie des médecins qui méconnaissent. Et c'est pas, au vu de notre pénurie et charge de travail, c'est pas si simple de s'y mettre. Aujourd'hui, énormément de médecins pédiatres, généralistes, PMI sont formés. On voit bien aussi que, et là où c'est chouette, c'est que la première ligne soit fermée. Les gens de crèche, les gens de PMI, les gens dans les écoles, les nounous, qui est une sensibilisation au repère des signes, alarmes sur un bébé à risque du trouble du spectre.
Alors justement, vous le dites, hein, la première ligne, c'est les parents, les personnes les plus proches des enfants pour détecter ce genre de choses.
Bien sûr.
À quoi il faut faire attention? Qu'est-ce qui peut alarmer les parents?
Alors, dans la toute petite enfance, c'est vrai que c'est un trouble neurodéveloppemental. Il est toujours là avant 3 ans. En tout cas, quand on a le diagnostic. Il n'est pas toujours facile à percevoir parce que dans les premiers mois, souvent, les enfants, ils ont des compétences par rapport à un enfant ordinaire neurotypique qui ne vont pas forcément se voir de façon très prégnante. Plus l'enfant neurotypique va grandir, plus ses capacités d'adaptation, de communication vont se développer de façon explosive. Et c'est pour ça que c'est souvent entre 2 et 3 ans que là, il y a la différence se ressent. Donc, les signes, en tout cas, qui sont vraiment à venir repérer chez les tout-petits, c'est le regard. Un enfant qui, spontanément, lorsqu'on s'adresse à lui, ne regarde pas, doit être un signe d'alarme. Quand on pointe, quand on babille, l'enfant, souvent, dès les premiers mois, peut être en capacité d'imitation verbale, de babillage. Vous voyez, c'est les RE, il répond, ou il répond aussi avec le corps. Toute cette gestuelle, c'est de la communication. C'est très pauvre chez les enfants, chez les bébés autistes, très très pauvre. Un enfant trop silencieux, trop sympathique, pas assez dérangeant, pas assez sollicitant, c'est inquiétant. En tout cas, on doit aller se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne nous communique pas ses besoins? Besoins physiologiques, hein, quand on est petit, le câlin, j'ai faim, j'ai les fesses sales... Mais un bébé déjà tout petit, dès l'âge de 3-4 mois, va venir manifester par les cris, par les tonus, par la posture. Un bébé trop hypotonique doit alarmer aussi.
Trop agité, hypotonique.
Hypotonique, non, trop calme au contraire. Calme, okay. Trop calme. Mais
et trop tonique peut-être, ça
hypertonique, peut aussi... je suis d'accord aussi. Mais quand même, le plus souvent, c'est quand même plutôt hypotonique. Mais quand même, de toute façon, un tonus anormal chez un enfant doit nous faire... En tout cas, est un signe d'alarme pour nous en disant il se passe quelque chose. Ce n'est pas du tout forcément dans le trouble du spectre, mais quand même. Et ensuite, vers 2-3 ans, les enfants qui ne vont pas forcément venir chercher la relation autour des petits jeux. Vous voyez, la bobine, où on se passe, on jette, hop, il rejette. Vous voyez, où il vient chercher l'interaction dans ses petits mouvements, là où il en est dans son développement, où il jette, on ramasse, il rejette, on ramasse, il rejette. Là, il y a de l'interaction. Ces enfants-là, ils ne cherchent pas l'interaction. Et encore, un autre signe, c'est souvent des bébés aussi, où les enfants, et majoritairement, on retrouve énormément aujourd'hui, ça on le sait, et c'est porteur justement de troubles du comportement, ils ont un profil sensoriel atypique. Donc c'est des enfants qui ne vont pas supporter certains bruits, certaines odeurs, certaines lumières, textiles, textures, et qui peuvent entraîner des comportements démesurés qui vont alarmer, inquiéter parce que le parent, lui, ne va pas comprendre. Et là, il va y avoir beaucoup d'incompréhension et c'est cette incompréhension qui doit en tout cas nous dire, mais mince, qu'est-ce qui se passe?
Et du coup, comment est-ce qu'on peut régler ces troubles ou les minimiser?
Donc, l'idée, et là aujourd'hui, on le sait, et les statistiques en tout cas, et l'expérience aujourd'hui, ces dernières années, montrent que plus une intervention est précoce, plus on peut venir justement stimuler et solliciter dans ses fragilités le cerveau et essayer justement de rééduquer pour avoir les bonnes boucles sur le plan cognitif, mais aussi sur le plan psycho-affectif, parce que ça a des retentissements. Donc l'idée, c'est effectivement de venir faire appel, d'en parler à son médecin généraliste, à son médecin pédiatre, à la crèche, en tout cas d'en parler. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs sont formés qui orienteront vers les personnes, justement, dans l'un, c'est monté depuis maintenant, je dirais, une année, ce qu'on appelle la PCO. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Donc la PCO, c'est une plateforme de coordination pour les troubles neurodéveloppementaux. Et on peut faire appel à elle. Et elle va permettre de mettre en place le plus rapidement possible en proposant des moyens de soutenir les familles pour aller dans des rééducations orthophoniques, psychomotes, pour justement essayer au maximum de venir solliciter l'enfant d'une façon un peu plus spécialisée, ou en tout cas d'une autre façon qu'une façon ordinaire, parce qu'il ne répond pas à la façon ordinaire. Par exemple, ça peut être tout simplement, on va aller chercher le regard. Donc pour chercher le regard, on va aller chercher l'enfant avec du regard, chercher l'enfant avec les jouets qu'il perçoit, les mettre systématiquement, par exemple, de œil à œil pour forcer la rencontre. On va travailler l'attention conjointe, le pointage, qui sont les prérequis de ce que nous, on appelle la communication.
Concrètement, aujourd'hui, un parent qui serait inquiet pour son enfant, qu'est-ce qu'il doit faire? Vers qui il se tourne?
Alors, s'il a un médecin, parce que là aussi, malheureusement, c'est notre ère actuelle de difficulté. Quand on a un médecin traitant, quand on a un médecin généraliste, faire appel à lui. Si pour le médecin généraliste ou le parent se pose toujours des questions, reste inquiet, il y a les PCO, la PCO de l'Ain, parce qu'elle est départementale. Il y a aussi, bien sûr, les médecins de PMI pour les plus grands ou même pour les petits. Il y a aussi en pédiatrie, il y a les CMP. Où je crois que là aussi, un parent doit faire appel en disant « j'ai du mal à comprendre mon enfant et on ne se comprend pas ». Voilà, sans avoir l'appréhension du jugement comme il y a eu par des années. On ne va pas revenir dans ce débat, mais aujourd'hui, on est bien d'accord que c'est un trouble plurifactoriel, d'origine probablement génétique, avec différentes formes, différentes forces, différentes expressions. C'est pour ça qu'on est dans une approche dimensionnelle. Mais ce qu'on sait aujourd'hui unanimement, c'est que plus on sollicite tôt, plus on diminue tous les troubles associés et plus on augmente les capacités de communication et d'interaction. Même si par contre, sur le plan cognitif, on restera un peu autiste dans sa façon de fonctionner et de percevoir et de traiter l'information.
Docteur Sandra Louis, merci à vous.
Merci.
Je remercie aussi Sylvie Garcia, présidente de l'association Liberté Autisme Quad 01, pour son aide à la préparation de ce numéro. Je vous invite aussi à aller écouter les chroniques La Voix de l'Autre, animée par Pascale Louvenaz. Elle a elle aussi interviewé un médecin, mais aussi une maman et des jeunes atteints de TSA. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve dans un mois. À bientôt. Quad 9 Doc. Le quatrième vendredi du mois sur Radio B.